Alors, on continue notre série ce matin. Au cours des deux dernières semaines, on a vu deux choses. On a vu premièrement Dieu comme le Dieu créateur, travailleur, qui a construit l'univers. Et pourquoi est-ce qu'on a commencé avec Dieu? C'est parce qu'on trouve en Dieu la définition pour nous de ce que c'est le travail, de ce que ça doit représenter pour nous. Souvent, on voit le travail comme un mal nécessaire, une malédiction. C'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Au commencement, Dieu travailla, créa, puis Dieu crée le jardin, pas un club med, mais le jardin, une place parfaite où les êtres humains allaient travailler. Ils allaient s'occuper du jardin, s'occuper des animaux, remplir la terre, d'accord? Et donc, on voit qu'on a été créé à son image pour être des travailleurs. C'est une des manières qu'on reflète vraiment la personne de Dieu en travaillant, quel que soit notre travail, à la maison, prendre soin de quelqu'un dans la famille qui est en perte d'autonomie, faire du bénévolat, être salarié, être entrepreneur, peu importe ton travail, étudiant, peu importe ton travail, on est en train de refléter la personne de Dieu lorsqu'on entre dans le travail pour créer, collaborer, développer, cultiver, d'accord? On a vu la semaine dernière que la réalité de notre expérience à tous les jours du travail ne ressemble pas quand même au Jardin d'Éden à cause de la chute. Et donc, dès le début de la Genèse, on voit l'homme pécher, on voit l'homme refuser de collaborer avec Dieu, brise sa communion avec Dieu, et Dieu maudit littéralement toute la terre. Dieu maudit la terre, le travail devient difficile, devient ardu. Et on a vu ensemble un petit peu la semaine dernière comment ça se traduit dans notre réalité. Comment, par exemple, c'est dur le travail. Comment notre cœur est déchu et on apporte nos péchés dans notre contexte de travail. Comment le travail a perdu son sens profond et comment nous distorsionnons le sens du travail. Jérémie va nous lire un passage ce matin dans l'Évangile de Luc. Et dans ce passage-là, on va voir deux fils et l'un d'entre eux a une vision totalement distorsionnée du travail, du sens réel du travail. Et ça va nous donner un tremplin pour aller voir comment l'Évangile vient transformer notre travail. On va prier ensemble. Père éternel, ce matin, on est assemblés pour t'adorer, toi qui nous as créés. Seigneur, t'es un Dieu besogneux, travaillant, créatif, engagé dans ton ouvrage, engagé passionnément dans ton ouvrage, Seigneur. T'abandonnes pas littéralement ta job jusqu'à venir sur la terre incarné dans la personne de ton Fils, Jésus-Christ est venu accomplir un ouvrage extraordinaire. Tu es entré dans l'œuvre, le travail de ton Père, et tu es venu t'offrir à la croix pour nos péchés. Et Seigneur, c'est notre privilège d'apprendre à comprendre le travail tel que tu l'as conçu. Parce que nous croyons qu'à travers toutes les activités de notre vie comme chrétiens, nous pouvons refléter ta gloire, nous pouvons te glorifier, nous pouvons apporter un témoignage qui porte la gloire vers toi, Seigneur, lorsqu'on prend plaisir dans notre travail, on surmonte les obstacles qu'ont apporté la chute, Seigneur. Et ce matin, Père, je veux te demander de nous aider à grandir pour voir comment l'Évangile vient changer, bouleverser et rétablir une saine vision du travail, Seigneur. Viens nous parler ce matin, qu'on parte avec une pensée nouvelle puis avec un zèle, un désir d'appliquer ça à chaque instant quand on a l'opportunité de travailler, de servir. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Luc, au chapitre 15, au verset 11 à 32, dans l'édition Second 21. Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le, » Leur père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a agressé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné, qui était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.
Merci, Jérémy. Donc, au cours des deux dernières semaines, on a vu le plan de Dieu pour le travail. On est appelé à refléter la personne de Dieu par notre travail. On a vu la semaine dernière que le péché est entré dans l'humanité et est venu nous a laissé un monde brisé. Ça a amené des bouleversements profonds dans notre expérience du travail. Le travail est difficile, il est difficile par sa réalité, par la nature qui est bouleversée, mais par la nature humaine qui l'est aussi. Et une des choses qui résulte de ça, c'est qu'on a distorsionné, on a déformé le sens du travail. Notre travail a un sens pour nous. Que tu sois un étudiant, que tu sois à la maison, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois en train de t'engager bénévolement ou en train de prendre soin de personnes autour de toi, ton travail a un sens dans ton esprit. Tu as une histoire, très inconsciente généralement, que tu te racontes lorsque tu te lèves pour aller travailler. Tu as une vision de ce travail-là. Pour certaines personnes, le travail, c'est l'endroit où ils vont s'accomplir, où ils vont se réaliser. Leur valeur est définie par leur travail. Ils placent énormément de fierté dans les réalisations qu'ils vont faire à travers leur travail. Le jour où ils n'ont plus d'emploi, la valeur de leur vie est complètement bouleversée. Et ces gens-là sont mal pris lorsqu'ils doivent aller parler à quelqu'un qui est sans emploi, ou qui ne pourra plus jamais travailler. Parce qu'ils doivent s'inventer une autre chanson pour pouvoir consoler cette personne-là puis lui dire qu'elle a quand même de la valeur. Pour d'autres personnes, le travail, c'est juste un mal nécessaire. On n'a pas le choix, il faut travailler, donc on va travailler. Il faut travailler, il faut pourvoir aux besoins des autres. C'est le sens du travail. C'est un monde reculons. Désire pas travailler, dans le fond. Pour d'autres, qu'est-ce que ça peut être aussi? Pour d'autres, ça va être... quelque chose qu'ils détestent parce qu'ils n'ont jamais eu le travail qu'ils auraient voulu avoir. Pour d'autres personnes, c'est le moyen de réussir à te payer des vacances, à être plus confortable. Le travail sert juste à accumuler des richesses. Pour d'autres personnes, le travail est une prison. Quand tu te lèves le matin puis tu dois aller travailler, quelle que soit la forme de responsabilité que tu as, pour d'autres, c'est une prison. Soit parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne devraient pas être là, soit parce qu'ils sont malheureux là-dedans. Alors, je ne sais pas quelle histoire tu te racontes, mais je t'invite ce matin à prendre conscience de ta vision de ton travail, pour voir si ta vision de ton travail est distorsionnée ou si vraiment elle concorde avec la vision de Dieu pour ton travail. Et on va voir ensemble un peu ce matin comment l'Évangile vient justement reconstruire, restaurer une saine vision du travail. Ce matin, on va voir ensemble que l'Évangile vient transformer l'histoire que je me raconte en pensant à ma job ou à mes responsabilités. Et ça vient transformer tranquillement toute mon expérience du travail. Pas simplement la manière que je vois mon travail. L'histoire que tu te racontes en pensant à ta job. Jésus raconte une histoire, celle que Jérémie nous a lue, avec deux fils. Un qui décide qu'il veut prendre toutes les richesses de son père, qui va se pousser avec. Puis un autre qui reste puis qui travaille, un homme travaillant. Et cet homme-là a une mauvaise vision du travail. Il faut aller jusqu'à la fin de l'histoire pour découvrir ça. Mais c'est vraiment une très, très belle illustration. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux frères qui sont là, puis il y en a un qui dit, « Père, donne-moi toutes mes richesses, je veux partir avec. » Ingrat, totalement ingrat, vraiment, totalement ingrat. Part avec ça, flobe son argent, comme on dit au Québec, sur des prostituées, la débauche, tout ça, il y en a juste pour quelques mois. Après ça, il se retrouve sans travail, il se trouve juste des petites jobines, il y a de la misère à manger, rentre en lui-même, réfléchit, réalise combien il a été insensé, puis il se dit, je vais aller voir mon père. Je vais aller voir mon père, puis je vais lui demander, regarde, traite-moi plus comme ton fils, je suis pas digne d'être ton fils. Je mérite pas d'être ton fils, je vais juste... Fais juste me prendre comme un de tes serviteurs, s'il te plaît. Je sais que tes serviteurs sont mieux traités que je suis traité ici. Tu peux-tu me prendre comme serviteur? Il arrive à la maison. Dès que le père le voit, il part à courir. Le prend dans ses bras, complètement bouleversé. Parce que pour lui, son fils qui était perdu est retrouvé. Et il fait une fête de malade. Et là, le fils aîné arrive. Il voit que c'est la fête, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Le serviteur vient, lui raconte son histoire, lui dit, ton père, ton frère est revenu, puis ton père est en train de faire la fête, viens avec nous, c'est génial, on était certain qu'on l'avait perdu. Et dans les paroles qui suivent, on découvre le sens qu'avait son travail pour cet homme-là. Son travail pour lui, parce que lui avait été fidèle, puis il avait vu son frère ingrat, vraiment pas correct, son frère. Partir avec les richesses, aller tout dépenser ça. Son travail pour lui devait au moins lui accorder le statut de fils fidèle, de fils digne. Devait au moins lui mériter un peu plus d'amour envers lui qu'envers son frère. Un fils indigne. Son travail devait lui donner un statut. Son travail lui méritait l'amour de son père, le respect, une dignité. Puis en fin de compte, ce qu'on découvre à travers sa réaction, c'est que son travail, à travers son travail, il servait une seule personne, c'est lui-même. Il va dire non, il servait son père. C'est ça qu'il dit, je t'ai servi tout le temps. Mais sa réaction nous révèle qu'en réalité, c'était lui qu'il servait. L'honneur que ça devait lui mériter chez son père. Et au moment où son père réagit puis aime son frère, il réagit super mal, avec une jalousie incroyable. Son cœur est dévoilé rapidement. Parce que cet homme-là travaillait simplement pour lui-même. Il pouvait même croire qu'il travaillait vraiment pour son père. Mais à ce moment-là, bien précis, son cœur est révélé. C'est intéressant, hein? Quand Jésus raconte cette histoire-là, il commence son histoire en disant « Il y avait deux frères ». Quand on raconte cette histoire-là, souvent on pense qu'il est surtout question d'un fils prodigue qui revient à la maison, puis qui s'est éloigné, tout ça. Mais l'histoire ne commence pas avec « C'était l'histoire d'un fils prodigue qui se repentit ». C'était l'histoire de deux frères. À la fin de l'histoire, il y en a un des deux qui est bouleversé par la grâce de son père, qui est repentant et qui entre dans l'amour avec son père. Il entre dans cette relation-là. Puis on a un fils qui n'a jamais compris le sens profond du travail pour son père. Comment est-ce qu'il aurait pu réagir autrement? Il aurait pu dire, heureusement qu'on est là. Mon frère est encore vivant, il revient à la maison. Heureusement, on a continué, on va pouvoir prendre soin de lui. On va pouvoir l'aider à se relever. Il aurait pu comprendre que pour son père, le travail, c'est pas une fin en soi, c'est un outil par lequel on peut bénir des gens autour de nous. Il aurait pu juste réaliser que son travail, c'est pas lui qui l'a bâti, c'est son père qui le lui a donné. Il aurait pu réaliser que son père l'aimait en lui donnant cet héritage-là avec ce travail-là. Il aurait pu prendre ça pour prendre soin. Il aurait pu réaliser que pour son père, le travail, c'est l'occasion d'aimer Dieu et d'aimer les gens autour de nous. Ici, on a beaucoup, c'est juste pour pouvoir aider même ceux qui sont dans le trouble par leur faute. Mais le travail ne représentait pas cela pour lui. Il s'accomplissait à travers ça, définissait sa valeur et estimait que son père devait le placer au-dessus de son frère. Et au moment où son frère est arrivé, ce qui nous est révélé, c'est que dans ce travail-là, le fils aîné n'avait jamais réalisé que la priorité, c'était la relation avec son père. C'est une relation d'amour qui était là. Il est complètement déconnecté de cette relation d'amour-là. Il est en train de s'accomplir lui-même dans son travail, puis il passe complètement à côté de la grâce qui est manifestée envers son frère. Voyez-vous comment le péché nous amène à distorsionner notre vision du travail? Alors, je ne sais pas c'est quoi l'histoire que tu te racontes lorsque tu vas au travail. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta tête lorsque tu penses au travail. Je ne sais pas si lorsqu'il y a des opportunités justement de manifester la grâce, de faire du bien, ton réflexe va dans ce sens-là parce que tu es en communion avec le Père. Puis tu vois ton travail comme l'opportunité de servir Dieu, le glorifier, d'aimer les gens autour de toi, ou si tu vois ça comme un endroit où tu t'accomplis, tu te réalises, c'est toi, c'est plus tes idoles qui sont en train de dominer ton travail. Et on a besoin de la grâce de Dieu qui vient réviser, transformer, corriger notre vision du travail. Parce qu'on apporte au travail notre nature pécheresse qui donne toutes sortes de visions distorsionnées. Et souvent, si notre vision est distorsionnée, ça se manifeste lorsqu'il y a des demandes qui sont faites, lorsqu'il y a des opportunités, lorsqu'il y a des situations qui se présentent à la maison, n'importe où. Dans mes responsabilités, il y a une contrariété qui vient. Et ma vision distorsionnée de mon travail est révélée à ce moment-là. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. On a commencé à le dire la semaine dernière, Dieu, le Père, est travailleur. Dieu, dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont créatifs, ils sont là dès l'origine, ils créent. Puis le Fils vient et il entre dans l'œuvre du Père. Le Père a créé l'univers. Et Jésus vient pour créer une nouvelle création. Une nouvelle création dans un monde qui a été bouleversé, brisé par le péché. Jésus vient faire un ouvrage de rédemption, de rachat, non seulement pour racheter nos cœurs, mais pour renouveler toutes choses. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, s'il vous plaît, comprenez-le pas autrement, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Au début de la vie chrétienne, tu ne comprends pas trop ce que ça veut dire cette affaire-là. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu te dis, OK, ça veut dire que mes péchés ont été pardonnés, puis je fais partie de la famille de Dieu. Puis plus tu avances dans la vie chrétienne, plus tu réalises que c'est vraiment une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de mes relations, une nouvelle vision de mon rapport à l'autre, une nouvelle vision des biens matériels, une nouvelle vision du temps, une nouvelle vision de ma santé, une nouvelle vision de l'éternité, de mes attitudes, de mes rapports humains, de mon travail. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque je suis en Jésus-Christ, et même ma vision, ma manière de regarder les autres, ma manière de regarder mon travail, parce que Christ est venu faire une nouvelle création. En parlant de l'œuvre de Jésus-Christ, la semaine dernière, j'ai apporté une citation de Dorothy Sayers, puis je l'avais beaucoup aimée, puis j'en ai une autre d'elle. Elle dit, « Le premier Adam a été maudit dans son travail et par la souffrance. » Et Jésus, parfois, est appelé le nouvel Adam. Mais le travail de rédemption et de souffrance et le triomphe du deuxième Adam le charpentier cloué à une croix. Il était travailleur, il était charpentier, mais le véritable ouvrage qu'il est venu faire, c'est de mourir cloué sur cette croix-là. Dans Romains 5, 8, on lit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'ouvrage que Christ est venu accomplir, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Dans l'histoire du fils prodigue, il y a un fils qui se réconcilie avec son père, puis il y en a un dont son cœur est révélé, puis on voit que dans le fond, il n'est pas en relation avec son père. Et l'œuvre que Christ est venu faire, en mourant sur la croix pour nos péchés, c'est de nous offrir l'opportunité de nous réconcilier avec Dieu. On a dit la semaine dernière qu'avec le péché qui entre dans le monde, la collaboration entre l'humanité et Dieu s'est arrêtée à ce moment-là. Dieu nous a créés à son image, mais on a arrêté de collaborer avec lui. On n'a pas voulu entrer dans son œuvre. Ça a amené un paquet de distorsions. Cette collaboration-là est rompue. On demeure des créatures à l'image de Dieu. On reflète Dieu de plein de manières. Tout à l'heure, j'ai parlé de la journée de la culture. Il y a des choses extraordinaires à aller voir. Les gens créent des choses incroyables. On porte encore cette image de Dieu en nous. On est encore des créatifs, des travailleurs. La culture fait des choses, des fois, vraiment affectées par le péché, mais des fois tellement belles. Mais en même temps, il n'y a plus de collaboration avec Dieu. Et Christ vient pour que nos péchés puissent être pardonnés, qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et qu'on puisse recommencer à collaborer avec lui. Et ça va venir transformer mon travail aussi. Une nouvelle création, une nouvelle créature, ça va venir bouleverser ça aussi. Je suis le fils aîné qui ne travaille pas pour les bonnes raisons. Parce que je ne suis pas dans une relation d'amour réelle avec mon père. Je calcule qu'il me doit ce que j'ai mérité. Le père veut avec moi une relation d'amour. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut m'offrir son pardon. Comme le Père l'a fait avec le fils prodigue, il est couru vers lui. Christ est parti de la présence de son Père. Il est venu vivre sur la terre. Il a couru littéralement vers nous. Pour finir, cloué sur la croix, payer le prix de nos péchés afin que nous soyons pardonnés. Et si je crois cela, si je crois dans son sacrifice, mes péchés sont pardonnés et Dieu commence une nouvelle œuvre de création en moi. Qui va venir bouleverser ce que je suis dans tout mon être, dans ma vision de toute chose. Et à travers cette série-là, on veut réfléchir comment cette nouvelle création-là, que Christ a commencé en nous, vient bouleverser notre rapport au travail, notre rapport à nos responsabilités, qui ne sont pas pour nous des malédictions, mais l'opportunité de ressembler à Dieu. Et laissez-moi juste vous donner un exemple. Je vais donner un exemple très, très, très brièvement. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire, je vous invite à aller la lire cette semaine. Dans le Nouveau Testament, il y a un tout petit livre qui s'appelle « La lettre à Philémon ». Je vais juste vous donner un exemple, une illustration, où on voit à quel point l'Évangile, la réconciliation avec Dieu, peut venir bouleverser ta vision du travail. La lettre à Philémon, c'est... Philémon était un homme chrétien au moment où il reçoit la lettre. C'est Paul qui l'a écrite. C'est un homme qui est riche, un homme qui a des serviteurs et dans le contexte de l'époque, des esclaves, d'accord? Le Nouveau Testament ne prend jamais une position affirmative et claire contre l'esclavage, mais d'une manière absolument superbe, Dieu va se servir de cette lettre-là pour contribuer à l'abolition de l'esclavage, d'accord? Et donc, dans cette lettre-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, Philémon avait anciennement un esclave qui s'appelait Onésime. Cet esclave-là avait pris la fuite. Causant des torts, évidemment, économiques à son propriétaire. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On ne le sait pas, on n'a pas les détails. Mais dans sa fuite, il va en venir à rencontrer l'apôtre Paul à Rome. Pauvre lui. À travers sa rencontre avec Paul, il va découvrir l'Évangile. Onésime, l'esclave en fuite, devient une nouvelle créature. Il découvre l'amour du Père, se réconcilie avec le Père à cause de l'Évangile. OK, là, l'apôtre Paul, il dit... OK, on va discuter ensemble, c'est quoi être un disciple de Jésus-Christ, mon homme? Légalement, tu étais son serviteur. Tu as causé du tort. Maintenant, tu vas aller vers lui et tu vas lui demander comment tu peux réparer. Fait qu'Onésime s'en va avec une lettre où Paul dit, tu vas aller présenter ça à Philémon. Écoutez, je veux dire, il pouvait être battu pendant je ne sais pas combien d'heures. Là. La loi était complètement du côté de Philémon. Tu vas lui dire, je t'ai causé des torts. Comment est-ce que je peux réparer mes torts? Dieu merci, dans cette histoire-là, Philémon, il est chrétien. Fait que pas l'écrire à Philémon. Puis il dit, Philémon, maintenant, ton rapport avec Onésime doit être complètement différent. C'est ton frère dans la foi, puis toi, tu es chrétien. Tu as appris à considérer les hommes autrement. De surcroît, ton frère qui est chrétien. Puis il les envoie avec ça. Puis il dit, les gars, je veux voir qu'est-ce que l'Évangile va faire dans votre relation, les deux ensemble. Fait que si l'Évangile vient bouleverser le rapport entre un maître et un esclave, qui sont tous deux chrétiens, est-ce que l'Évangile doit venir bouleverser ta vision du travail? Même si tu penses que c'est de l'esclavage, ton affaire. L'Évangile doit venir bouleverser en profondeur. Vous pourrez aller lire la lettre à Philémon, c'est tout à fait bouleversant. Quelqu'un a dit, l'Évangile ne nous enveloppe pas d'une petite religion et d'une petite éthique chrétienne, mais se rend au cœur même de notre pensée pécheresse et de nos cœurs tortueux. Et ça, ça doit se manifester dans toutes les sphères de notre vie. Je ne travaille pas comme les autres, je n'étudie pas comme les autres, je ne me comporte pas à la maison comme ceux qui n'ont pas été réconciliés avec le Père. Et on va terminer ce matin en commençant à regarder concrètement comment l'Évangile vient transformer notre vision du travail. L'Évangile est ma nouvelle relation au travail, ma nouvelle vision du travail. Tim Keller écrit ceci, justement, je pense, dans ce livre-là. L'Évangile nous enseigne que le vrai sens de la vie est d'aimer Dieu et notre prochain en adoptant une attitude de serviteur. Je répète ça. L'Évangile nous enseigne que le vrai sens de la vie est d'aimer Dieu et notre prochain en adoptant une attitude de serviteur. Lorsque je lis le début de la Genèse, je peux comprendre que le sens du travail, c'est d'être comme Dieu, de créer, de cultiver, de collaborer ensemble. Je peux tout comprendre ça à partir de la Genèse. Devenir serviteur, ça me prend Jésus qui vient, puis je vois son travail à lui, puis je découvre que Dieu incarné, roi, devient serviteur, se dépouille lui-même, va mourir à la croix. Et donc, l'Évangile vient enrichir, vient transformer, bouleverser ma vision du travail. Parce que si les deux plus grands commandements dans la Bible, c'est d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain, l'Évangile vient m'enseigner que ça se fait en adoptant une attitude de serviteur. Un chrétien est toujours un serviteur. Et le mot pour serviteur ici, c'est celui pour Onésime. C'est doulos, c'est esclave. Vous comprenez, il n'y a pas de syndicat là. C'est doulos, c'est esclave. Et l'Évangile m'enseigne que la posture avec laquelle je vais aimer Dieu et je vais aimer les gens autour de moi, c'est avec celle d'un serviteur, volontairement, parce que je suis un disciple de celui qui a été cloué à la croix, de celui qui s'est fait serviteur pour le salut de mon âme, pour que je sois réconcilié avec mon Père, pour que j'entre dans l'œuvre de mon Père et je vais devenir un serviteur comme lui. Jésus dit dans Matthieu, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, vos bonnes œuvres dans d'autres versions, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de Dieu, votre Père céleste. Au Québec, on a un complexe, les chrétiens, avec les bonnes œuvres. Parce qu'il a été enseigné à nos grands-parents, il a été enseigné à nos parents, peut-être qu'il nous a été enseigné, comme dans presque toutes les religions du monde, mais le catholicisme particulièrement, que les bonnes œuvres servent à gagner ton ciel. D'accord? Et donc, on a une espèce de complexe dans l'Église chrétienne évangélique avec les bonnes œuvres. On dit non, les bonnes œuvres, c'est pas bon. C'est le message de l'Évangile, c'est la seule chose. Quand j'arrive au travail, mon mandat, c'est de ne pas mentir, de ne pas être malhonnête, puis d'annoncer Jésus. Est-ce que vous allez écouter Jésus ou non? Honnêtement, ça me fatigue par bout d'entendre cette vieille ritournelle-là, où on bouche nos oreilles puis on n'entend pas ce que Jésus dit. Personne ne va devenir chrétien s'il n'entend pas l'Évangile. Amen! Il n'y a personne qui va être sauvé juste par mes bonnes œuvres. Est-ce que ça se peut que quelqu'un glorifie mon Père dans le ciel en voyant mes bonnes œuvres puis en apprenant que je fais ça parce que je suis chrétien? Mais je pense que c'est ça que Jésus a dit ici. Et librement, je vais parler de Jésus. Les gens vont savoir pourquoi je fais des bonnes œuvres. C'est parce que Christ en a fait une bonne pour moi. Il est mort sur la croix pour moi. Et donc, lorsque l'Évangile entre dans ma vie, je vois mon travail, je vois mes responsabilités comme l'opportunité de devenir un serviteur. Je suis un serviteur et à travers mon attitude, pour me dévouer, pour me donner, pour chercher le meilleur pour les gens autour de moi. Ça va venir bouleverser mon rapport avec les autres dans leurs ambitions de travail. Ça va venir bouleverser mon rapport avec mon employeur. Ça va venir remplacer mon rapport avec mes employés. Onésime, Philémon, je vais chercher à avoir une attitude de serviteur envers les autres. Mon rapport avec mon épouse, mon rapport avec mes enfants. Toutes les positions d'autorité que je peux avoir dans ma vie sont toutes adoptées avec une posture de serviteur. Et mes bonnes œuvres apportent de la gloire à mon Père. Je le fais en affichant ma foi, en affichant ma vie chrétienne. J'espère que les gens vont venir me demander, « Mais pourquoi? Où tu trouves ce zèle-là? » Laisse-moi te parler de quelqu'un, s'il te plaît. Ça fait longtemps que je te dis que je veux t'en parler. On va aller prendre un café ensemble. Je ne fais pas ça pour gagner mon ciel, je te le garantis. Il est déjà tout gagné. Je le fais parce que quelqu'un m'a aimé en premier. Et c'est la raison pour laquelle je le fais. Tom Nelson dit, « Une présence fidèle des chrétiens dans le monde signifie que nous sommes entièrement présents et engagés dans le monde, dans nos différentes sphères familiales, professionnelles, communautaires. Comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à une mission d'engagement, non pas de retrait. » Alors, si ta manière de concevoir la vie chrétienne, c'est que tu dois te tenir loin, 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 loin des non-chrétiens, parce que ça, c'est le royaume du diable. Puis toi, tu dois vivre dans une communauté chrétienne. Puis quand tu fais une percée là-bas, c'est pour venir juste donner un traité. Tu n'as pas fréquenté Jésus assez souvent. Tu n'as pas marché avec Jésus assez souvent. Jésus vivait au milieu du péché, au milieu des gens qui ne comprenaient pas le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est une réalité, premièrement, qui se produit dans mon cœur, qui vient bouleverser mon rapport aux autres. Je n'ai pas besoin de m'isoler, j'ai besoin de m'engager, et ça, c'est vrai au travail. Et donc, un chrétien ne rentre pas travailler pour aller essayer de survivre dans un monde où il y a peu de chrétiens, puis il a juste hâte de sortir de cet environnement-là pour rentrer chez lui. Un chrétien s'en va là en s'engageant dans des relations. Un chrétien s'en va là en s'intéressant aux gens, en s'intéressant au succès de l'entreprise où est-ce qu'il travaille, en se donnant, en se dévouant, en s'engageant réellement, porté par l'Évangile qui l'amène à avoir confiance. D'une part, qui est aimé de son Père et qui a un message extraordinaire à apporter. Cette semaine, je vais vous demander de faire quelque chose. Je veux vous demander de prendre vos responsabilités, d'accord? Vous savez c'est quoi vos responsabilités? Où vous travaillez? Salarié ou non? J'ai dit plein de fois. C'est quoi vos responsabilités? Et je vous demande de vous casser la tête pour vous poser la question, en quoi l'Évangile vient changer votre vision de vos responsabilités, votre vision, votre manière de le faire, votre attitude. Qu'est-ce qui change? Et je vous donne juste quelques exemples très rapidement. Je travaille fort et la qualité de mon travail fait partie de ces bonnes œuvres-là. Je regarde mes collègues de travail comme des créatures de Dieu et je cherche à reconnaître tout ce qui est louable en eux, dans leur travail, dans leur éthique. Je cherche leur bien, leur avancement. parce que Christ s'est fait serviteur pour moi. Alors même si moi je veux de l'avancement, je veux contribuer à l'avancement des autres aussi. Je reconnais que toutes les sortes de travail ont la même valeur. Il n'y a pas de basse besogne. Je suis un serviteur. La job la plus cheap est parfaite pour moi. Elle est honorable parce qu'en soi, je suis en train d'imiter Christ qui s'est fait serviteur. Il n'y a pas de job trop petite pour moi. D'ailleurs, il n'y a pas de position ou de travail trop humble pour moi, que ce soit à la maison, que ce soit dans mon rapport avec les gens, que ce soit dans mon bénévolat, que ce soit au travail. On a tous une vision de notre travail. Et le matin, lorsque tu te lèves et tu t'en vas travailler, tu te racontes une histoire. À la maison, travail, bénévolat, tu te racontes une histoire. Tu t'en vas étudier, tu te racontes une histoire. C'est quoi l'histoire que tu te racontes? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Tu veux faire ça? Tu veux faire quoi avec ça? Christ est venu pour qu'on puisse se réconcilier avec le Père et qu'on puisse recommencer à collaborer avec lui. Être des gens qui apportent le message de l'Évangile, être les gens qui vivent les valeurs que produit l'Évangile dans nos vies, avec une vision du travail renouvelée, où je peux recommencer à collaborer avec Dieu, vouloir bâtir, vouloir créer, vouloir collaborer avec des gens autour de moi. Sans Jésus-Christ, ta vision du travail est distorsionnée. Tu cherches à t'accomplir, à te réaliser, ta valeur, ton identité. Tout est là. On t'enlève ça, tu viens de tout perdre. Ou encore, c'est un mal nécessaire. C'est une maudite job qui me sert juste à répondre aux besoins des gens autour de moi. J'ai juste hâte de pouvoir prendre ma retraite puis plus travailler. Drôle de concept pour un chrétien. On a juste le rythme et on sert jusqu'à ce que Dieu rappelle son serviteur dans sa présence. Sans Jésus-Christ, ta vision du travail est distorsionnée. Ton travail sert juste à laisser tes idoles, les idoles de ton cœur s'exprimer. Si l'Évangile vient dans ton cœur, tu es réconcilié avec Dieu. Et on a juste commencé à voir, on va continuer la semaine prochaine alors qu'on va terminer la série. On a commencé à voir comment l'Évangile vient changer ma vision du travail, puis tranquillement renouveler, transformer toute mon expérience du travail. On va prier ensemble. Père, nous voulons t'adorer ce matin parce que tu es un être absolument extraordinaire. Tu es un être d'une générosité inouïe. Toute la création parle de ta générosité, de ta bonté, de ta beauté, de ton intelligence, Seigneur. Chaque fois qu'on s'arrête pour manger, chaque fois qu'on serre une poignée de main, chaque fois que nos yeux se déposent sur quelque chose de beau, Seigneur, que tu as créé, chaque fois que notre cœur bat dans une relation, dans une discussion, qu'on entend de la musique, tout ça, Seigneur, nous parle de toi. Mais Seigneur, ce monde-là est brisé. Et on a un rapport qui est confus, un rapport mélangé, souvent frustrant au travail, Seigneur. Au lieu de voir ça comme la bénédiction de te ressembler, on voit ça comme une malédiction dans nos vies, Seigneur. On a besoin que ton évangile vienne premièrement nous réconcilier avec toi, si ce n'est pas le cas, Seigneur. On a besoin que ton évangile vienne nous réconcilier avec le grand privilège d'être des serviteurs, d'entrer dans ton œuvre en aimant les gens autour de nous, en étant leurs serviteurs. Et ce matin, Seigneur, à travers notre louange, à travers le repas du Seigneur, on veut t'adorer. Nous voulons te dire qu'on veut entrer dans cette œuvre-là par ta grâce et renouveler notre intelligence. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.